Cette chanson-là est bien choisie pour...
Elle n'a pas été choisie, elle est tombée là par hasard.
Non, mais elle tombe à point.
À brûle
pour
point.
On a fait on a un petit mot à peine sur la gestion de la pandémie.
Désolé.
Puis, non,
désolé,
c'est bien correct.
Ça. J'ai vraiment un trop-plein.
Ouais, mais on est. Je pense que les deux, toi puis moi, Ray, on a atteint un peu notre trop-plein à des moments qui se ressemblent, c'est-à-dire très, très récemment.
Ouais.
Puis je disais que la tune est tombée à point parce que c'est comme une chanson qui donne envie de. Je me sens dans une voiture prêt à faire une course automobile, tu sais, puis.
Ouais.
Tu sais, prêt à démarrer, là. Puis ça va être sportif le prochain segment parce que c'est des nouvelles.
Des nouvelles.
Mais évidemment, il y avait un point de presse hier, la vaccination, ces choses-là. Donc. On va parler de COVID un petit peu, OK? On est tous un peu... En fait, on est tous extrêmement tannés de la pandémie.
C'est moi qui décide.
On est tous un peu tannés d'entendre parler aussi de la COVID, mais il y a des nouvelles. Il faut qu'on les traite. Puis parce que des fois, ça vient nous chercher en dedans. Ça vient nous chercher dans les entrailles.
Ça faisait-tu des belles photos, hein, la conférence de presse au Stade olympique?
Je m'excuse, j'entends pas bien ce que vous avez dit. Il y a du bruit ici.
Ah oui, Albert.
Fais pas ta conférence de presse dans le stade olympique, puis tu vas entendre les journalistes, mon monsieur Dubé, là. Ouais, effectivement. Sauf que, ce que je dois donner, par contre, à la conférence de presse d'hier,
oui.
C'est que j'ai cru M. Legault quand il a dit, si vous savez comment je suis content de vous annoncer ça. Ça veut pas dire que c'est une. Tu sais, ça veut pas dire que la gestion est impeccable, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des vaccins, des problèmes de vaccins. Je veux pas tomber dans le chiolage, mais quand il a dit hier, vous savez pas comment je suis content de vous annoncer ça, je le croyais.
Ah oui.
Puis moi aussi, j'étais quand même content. Maintenant, attendons de voir comment ça va se passer, parce qu'il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Parce que moi, je l'ai fait, crier victoire trop rapidement. Tu sais, à fin de l'année 2020 ou début de 2021, je ne me souviens plus, là, mais tu sais, à un moment donné, on était comme dans les bilans. Puis à un moment donné, j'avais décidé, parce que c'était un peu donnant, de faire un bilan des meilleures nouvelles de l'année 2020. Loin devant toutes les autres, la meilleure nouvelle, c'était l'arrivée du vaccin.
Mm-hmm.
Loin, loin, loin. À ce moment-là, oubliez pas, là, on pensait que c'était fini. Fin mars, là, tout le monde était vacciné, pas de problème. Là, t'sais. Là, on prend notre gaz égal un petit peu. Mais c'était des bonnes nouvelles. Là. On commence par ça, Pierre, tant qu'à faire. Là. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait...
cette émission-là.
Ben oui.
Je vais juste vous donner rapidement le bilan. 739 nouveaux cas et 13 décès. C'est le bilan qui a été donné hier par la santé publique. Hospitalisation moins 9, puis soins intensifs plus 3. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est le nombre de doses qui ont été distribuées ou mis direct dans le bras des gens. 10 200 doses, donc on reprend un certain rythme. Mais en même temps, là, les doses qu'on a reçues, c'est 100 000 la semaine dernière. 100 000 cette semaine, 100 000 pour chacune des semaines suivantes là, pour les prochaines semaines. Donc là, la campagne de vaccination, elle est effectivement bel et bien lancée. 365 000 Québécois qui ont été vaccinés une première fois jusqu'à maintenant, depuis le début de la campagne de vaccination, justement. Vous parliez il y a un instant du point de presse d'hier de François Legault. Il a annoncé notamment que la campagne de vaccination en général, donc dans la population en général, et pas en RPA, pas en CHSLD, puis pas les travailleurs de la santé, vraiment la population en général, commencera bientôt. Donc, priorité au cours des deux prochaines semaines aux 85 ans et plus. Il y a une nuance ici à Québec, c'est 80 ans et plus en raison de la quantité de personnes et de l'analyse qu'on a fait de la situation.
Je me pars si jamais une business de fausse carte, là, vous m'appellerez. Dans le temps, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des crayons de bois. Tu sais, avant, les permis de conduire, pendant une certaine période, ils étaient comme... ils étaient mât.
Oui.
Puis ils étaient bleus aussi. Oui. Tu viens de ça?
Ben oui.
On prenait des crayons-là bleus, non? On changeait nos dates. Ça fait que...
Vous étiez sûr de ne pas vous faire pogner?
Ben, à un moment donné,
certain que le plan, là, c'était nickel.
Non, mais ça a marché pendant plusieurs semaines. Mais à un moment donné, le doorman à Petite Grenouille, il a commencé à se licher le pouce, puis il a fait « ouais ».
Steph est rentré au cégep grâce à un bulletin modifié au fusain.
Pardon? Quoi?
Non, je suis très sérieux.
Il a été accepté au cégep parce qu'il a modifié son bulletin au fusain.
Oui, puis le cégep, il est allé, là, mais... Pas
souvent.
Il s'est inscrit.
C'est ça, il est inscrit.
Ah, OK, c'est ça.
Puis il le fréquentait.
OK.
Mais okay. Je parle de l'établissement.
Oui, je comprends. Il faisait de la cafétéria comme moi. Moi, je faisais de la cafétéria.
Ouais. Québec.ca/vaccin-COVID, c'est l'endroit pour aller s'inscrire, pour avoir l'info. Mais évidemment, si vous n'avez pas accès à Internet, 1-877-644-4545 pour s'inscrire également par téléphone. C'est le numéro général qu'on donne depuis le début de la pandémie. À ce moment-là, lorsque vous irez vous faire vacciner, un deuxième rendez-vous vous sera donné à ce moment-là. Et il y a même des accompagnateurs qui pourraient être vaccinés en même temps que les personnes âgées. Évidemment, 85 ans et plus, ça peut devenir complexe de se déplacer et tout ça.
Les affaires sont là, puis si c'est accompagnateur, c'est probablement leur aidant naturel aussi.
Possiblement.
Je pense à ma belle-mère, elle s'occupe de sa mère, justement, la grand-mère de ma blonde.
Donc, elle devrait être vaccinée.
C'est-à-dire qu'elle est en résidence. Fait que je pense qu'ils vont la vacciner en.
Déjà en résidence.
Plus rapidement. Ben non, mais c'est-à-dire, la grand-mère est vaccinée.
OK.
Mais ma belle-mère, faudrait qu'elle vaccine plus vite, justement. Parce qu'elle, a début soixantaine, je pense, là. Fait que, tu sais, elle n'a pas 75 non plus, mais.
Mais est-ce qu'elle est en résidence?
Plus t'es vieux, plus t'as de problèmes, là.
Elle, est-ce qu'elle est en résidence, ta belle-mère?
Non,
ben elle sera pas, même si elle l'accompagne, elle ne sera pas vaccinée. Parce que ça prend 70 ans et plus. Ou encore, et encore, faut respecter les critères, là, c'est d'être présent 3 jours par semaine ou plus en soutien à des proches de 85 ans et plus.
Ben ça, tu le sauras. C'est la bonne foi du monde.
Ils feront probablement pas d'enquête, mais 70 ans et plus, ça prend une carte, j'imagine, quoi que ce soit. Là, donc, mais en même temps, c'est pour éviter
que... Je comprends qu'il faut mettre la ligne à quelque part, là, mais un aidant naturel qui a 68, là, il est là. Il amène la personne âgée à se faire vacciner. Il est là.
Mais
je comprends qu'il y a un nombre de doses, puis il faut vacciner les personnes les plus vulnérables. J'ai tout compris. Mais
il y a un système à mettre en place.
Ah ouais. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des gens qui disent hey, moi, j'ai 69, j'ai pogné le COVID. Parce que le vaccin, en passant, il immunise pas contre le COVID. Là. Il fait en sorte qu'il n'y a pas d'effet néfaste. Mais tu l'as pareil. Tu peux le pogner quand même.
Il protège bien. Là,
très bien.
En Angleterre, puis il y a un autre endroit là, où les taux de.
Non, mais c'est pas ça. L'affaire, c'est que si, mettons, quelqu'un de 88 va se faire vacciner, puis c'est son aidant naturel de 68 qui l'amène, celle-là de 88, là, ça veut pas dire qu'il l'a pas ou qu'il le pognera pas.
Non.
Je pense à ma belle-mère qui s'occupe de sa mère.
Tu
elle,
quand
elle va en résidence s'occuper d'elle, elle peut le pogner pareil, là. C'est que c'est des personnes qui sont vulnérables, un peu moins que les personnes de 85 ans et plus, mais qui sont quand même vulnérables. Et j'entends les 65 ans et plus, là, 60, 65 et plus, qui rentrent dans les CHSLD, qui sont des niques à COVID, mais on va leur dire, allez-y pareil, là, quoi qu'ils vont déjà. Regarde, il n'y en a pas de système parfait, c'est pas ça, là, mais on va en entendre parler, c'est sûr.
Ouais. Il y a une priorité qui sera accordée à la région de Montréal parce que le nombre de cas et d'éclosions sont plus élevés là-bas. Québec assure tout de même que, voyons, Québec assure. Si j'avais le bouton pas loin, je le pèserais. Mais assure quand même que les vaccins seront disponibles partout dans la province et que dès jeudi, donc demain, les gens de 85 ans et plus pourront s'inscrire partout dans la province. Au moins 100 000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech seront livrées chaque semaine au cours des prochaines semaines au Québec. Normalement, le fédéral a promis 1,3 million de doses pour le Québec d'ici la fin mars. Et il semble, Christian Dubé semble très optimiste, merci,
optimiste.
Pour la vaccination en disant que c'est pratiquement une pratique parce qu'on est habitué d'en faire 250 000 par semaine dans le temps de l'influenza, puis là on parle de 100 000 par semaine, donc ça ne serait pas un enjeu, mais pas du tout.
Question pour toi, Pierre.
Oui.
J'ai fait un sondage sur sa page Facebook du 93, sondage non scientifique, on s'entend, mais j'arrive pas à voir le nombre total de personnes qui ont répondu à mon sondage. Sais-tu comment faire? Si ça dit qu'il y a presque 5000 interactions, ça veut-tu dire qu'il y a presque 5000 personnes qui ont répondu?
C'est une bonne question. Je vais aller voir en même temps qu'on se
parle. Prendre le temps de checker parce que je l'ai mis à 2-3 places, mon sondage. Page Facebook du 93, mon compte Twitter.
Question.
C'est est-ce que vous allez vous faire vacciner quand votre groupe d'âge sera appelé?
Okay.
Oui ou non? Parce que, puis je voulais juste vérifier, c'est pas chiolage ni rien, mais tu sais, c'est parce que souvent...
Ça va finir 70-30?
C'est-à-dire que, ben, eux autres, en santé publique, ils disent qu'il faut atteindre justement. Ils travaillent 75. Avec 75%. Puis j'arrive à peu près à ça partout.
Oui, puis le nombre d'interactions. 26, ben non, c'est 2700 votes que t'as.
Bon, 2700 quand même. Je comprends que c'est non scientifique parce que ça s'adresse aux milliers de personnes qui sont sur la page 93 et non pas un échantillon représentatif de la population.
Ouais.
Mais c'est quand même un gros échantillon.
Et ça donne quoi?
74-26. Fait que 75-25 ou pas mal là, dans ces eaux-là. Sur mon compte Twitter, je pense à la même affaire. J'ai 87% de oui et 13% de non. C'est que, parce que je me demandais, pendant un bout de temps, on avait fait le sondage. D'ailleurs, si vous voulez nous écrire là-dessus au 25-226, quand votre groupe d'âge sera appelé, irez-vous vous faire vacciner, oui ou non?
Dans ma tête, j'avais 25-30% de la population qui voulait pas.
Moi aussi, je m'attendais un peu à ça. 25%, OK, mais 30, 35, 40, ça peut vite devenir...
problématique.
Ben, plus élevé que je pensais. Ouais. Plus élevé que je pensais, on va le dire de même. Ça fait que 25226, si vous voulez nous partager votre avis là-dessus, vous êtes les bienvenus.
Sur le tramway maintenant, parce qu'on a parlé de ça également au cours du point de presse. Bon, d'abord, je dois vous dire que François Bonnardel a écrit enfin sur sa page Facebook hier qu'il n'y avait pas eu d'entente de principe entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. Il a plutôt dit que le maire Régis Labeaume a pu interpréter une entente en raison de son enthousiasme par rapport au projet. Il a dit ceci. « Ces discussions entre la Ville et moi, c'était assez avancé. Nos fonctionnaires respectifs aussi ont poursuivi le travail. La Ville a vu dans ces discussions un scénario acceptable qu'elle qualifie aujourd'hui d'entente de principe. Mais au-delà d'une entente de principe qui n'existe pas, en passant au ministère des Transports, ce qui est important que le maire sache, et il devait le savoir, c'est que l'on continuait nos discussions au gouvernement. » Alors, l'entente en question, là, c'est la partie où on enlevait une partie du tramway du côté de Charlebourg. On arrêtait à la 41e rue et on prenait les 200 millions de dollars dégagés avec ça pour améliorer la desserte des banlieues.
Mais s'ils mettaient toute cette énergie-là à travailler sur un tracé, là, ce serait spectaculaire. Ah, ce serait fini plus longtemps. Non, il n'y en a pas d'entente de principe. Oui, il y en avait une. Non, il n'y en a pas. Non, c'est toi qui as commencé. Non, c'est toi qui as commencé.
Puis c'était le propos de Joe Trudeau hier dans l'émission Troulan, d'ailleurs. Là. C'est difficile à suivre cette saga-là qui se parle, qui s'entend, puis tout ça. Enfin, il a ajouté, M. Bonnardel, la seule entente de principe que le gouvernement du Québec a avec la Ville de Québec, c'est que la capitale nationale se dotera d'un véritable réseau de transport structurant qui inclura une partie en tramway comme mode lourd et une desserte adéquate de la périphérie, comme dirait Danny.
Périphérie, on travaille en périphérie.
Yes. Rencontre Justin Trudeau et Joe Biden, c'est survenu hier, on le savait. Maintenant, on a quelques bribes qui sont sorties de cette rencontre-là, mais très peu. On a parlé de relance économique, on a parlé de pandémie, évidemment, on a parlé de changement climatique. C'était la première rencontre du 46e président américain avec un dirigeant étranger. Et il a dit, M. Biden, « Les États-Unis n'ont pas d'amis plus proches que le Canada. » Juste ça, là, c'est pas rien quand même. C'est la raison pour laquelle mon premier appel en tant que président a été pour vous et que ma première rencontre a été avec vous.
Il va-tu nous envoyer des vaccins?
Ben, il est question, entre autres, de vaccination puis de partage de connaissances et tout ça. Il y a une des choses qui continue d'inquiéter au Canada quand même, c'est le Buy American Act, parce que les Américains sont, tu sais, on connaît le peuple, il est protectionniste, ce peuple-là. Donald Trump l'était, Joe Biden l'est également. Mais à suivre, là, du moins, ils se sont parlé, puis il semble que les relations sont un peu plus cordiales qu'elles l'étaient depuis 4 ans.
Les États-Unis, tu sais, ils veulent utiliser l'énergie verte qu'on a au Québec.
Oui.
L'hydroélectricité, c'est la plus grande richesse qu'on a au Québec. Mm-hmm. Hey, moi, c'est pas compliqué. En fait, non, c'est sûr que c'est compliqué parce que c'est de compétences provinciales, tout ça, là. Mais moi, être Trudeau, là, j'appelle M. Legault, je garde François, là. Là, les États-Unis vont nous envoyer des vaccins. Là. On va favoriser l'envoi de l'hydroélectricité à un prix qui a de l'allure. On a des vaccins au Québec. Hein, bing, bing, bang, bang. Au Québec, on serait-tu heureux de ça? Peut-être qu'ils se mettraient à d'autres les autres provinces, mais je m'en fous. Moi, je veux juste des vaccins, moi. Tout ce que je veux, c'est des vaccins.
On veut des vaccins.
C'est pour ça que je suis pas premier ministre.
Parce qu'effectivement, il y aurait une question de compétence.
Je m'accouillerais ça à côté. Ça serait que de la magouille. Ah oui. Là, François, là, regarde. On va faire passer tes lignes. On le dira pas à personne.
Ben non, on le dira pas à personne, ça paraîtra pas.
Ça paraîtra pas, personne va s'en apercevoir.
Tarmac, on va
t'envoyer, ça, ouais. M'a envoyé des vaccins. C'est quoi ton adresse, toi? Mais fais chier par Pyro
Letter. C'est quoi ton adresse? Je t'envoie ça demain matin.
Livraison dans les 24 heures. Amazon, dessus, ils font ça.
Es-tu là demain matin? Je vais t'envoyer ça demain matin.
Comme le gars du Vidéotron. Sois là demain entre 9h et 14h. Tu vas voir, je vais passer.
Puis il passe pas. Le ministre Jean-Yves Duclos, maintenant, ben il est ministre, oui, président du Conseil du Trésor et député fédéral de Québec. Il est au repos après une petite, il a dit que c'était une petite embolie pulmonaire. Message qui a été publié sur sa page Facebook après que notre collègue Jonathan Trudeau l'ait annoncé dans Bouchard en parle hier après-midi. Il a dit « Au cours des derniers jours, je ressentais une douleur persistante au niveau de ma cage thoracique. Dimanche, je suis finalement allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué une embolie pulmonaire. Je suis de retour à la maison, je vais bien. Mais sur l'avis du médecin, je vais prendre quelques jours de repos. » Pour ce qui est de ses responsabilités, c'est Joyce Murray, la députée de Vancouver Quadra et ministre du gouvernement numérique, donc qui va assurer son intérim. Mais bon, on parle de quelques jours, donc peut-être qu'elle n'a pas le temps de s'installer dans le bureau trop longtemps.
Ministre de quoi, Joyce Napier?
Madame, moi, c'est pas Joyce Napier.
Ah, okay.
Joyce Murray, députée de Vancouver Quarda et ministre du gouvernement numérique. Donc, elle s'occupe, c'est la Éric Kerr au fédéral.
Oui, monsieur, ça va bien.
Ministre du gouvernement numérique. Je suis seul qui tripe sur ce job-là. sur le nom du poste. Ministre du gouvernement numérique. C'est-tu elle, comment ça s'appelle déjà l'oiseau? Phoenix? C'est-tu elle, ça, Phoenix?
D'après moi, elle n'était pas là dans ce temps-là, parce que ça
fait
longtemps.
Non, je sais, mais c'est elle qui s'occupe de ça.
Elle doit avoir ça dans sa cour.
Ça, c'est ça, le gouvernement numérique, ça?
Je me demande, elle doit avoir aussi l'application COVID dans
l'Agence du quelque revenu du Canada, ouais, là, que tu vas là-dessus puis que tu n'es jamais capable de te connecter à ton maudit compte. C'est-tu, ah, c'est Mme Joyce...
L'informatique, c'est merveilleux, nos affaires.
Ministre du gouvernement numérique. C'est qui l'expert en marketing qui trouve les noms des ministres? C'était cœur, hein? J'en reviens pas comment c'est bon.
Aide médicale à mourir, maintenant, on change de sujet complètement. Mais on reste au fédéral. Le gouvernement de Justin Trudeau obtient finalement l'appui du Bloc québécois. Et c'est important parce que ça prenait l'appui d'un des partis d'opposition pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de renvoyer le projet de loi C7 au Sénat. Il y a des amendements, il y a des changements qui ont été proposés. Par exemple, l'accès, puis ça, c'est particulier. Là, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça ouvrirait la porte notamment aux personnes qui souffrent de maladies mentales. Je regardais, c'est Radio-Can, je crois, hier, qui a rencontré un jeune homme qui disait qu'il a toujours souffert d'une anxiété profonde dans sa vie. C'était pire que des blessures physiques. Il faisait de l'automutilation en raison de ça. Là, en ce moment, ça va bien, mais il dit que si jamais sa situation revenait comme elle était avant, il n'hésiterait pas à faire la demande d'aide médicale à mourir. C'est particulier en tabarouette,
mais, est-ce que le problème n'est pas exactement dans ce que tu viens de dire? Là, ça va bien, mais si ça va mal, il voudrait demander l'aide médicale à mourir. Ben, en passant, moi, je suis très favorable à l'aide médicale à mourir.
Il dit ça va bien, mais c'est très fragile.
Opinion peut-être impopulaire, là. Moi, puis regarde, j'ai pas l'âge de prendre cette décision-là, mais en même temps, je peux essayer de me projeter. Juste, ça va changer dans le temps, mais... Moi, là, je vois les CHSLD, je vois les... Je suis pas sûr que je veux me rendre si âgé que ça, finalement, là, tu sais. Mais dis, quand, tu sais, à partir du moment où t'as... Je sais pas si, tu sais, mettons que je me rends à 80, là.
Ouais, tu penseras pas pareil dans 20
non.
ans.
C'est sûr que non, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis que ça va changer, parce que là, ouais, t'as peut-être des petits-enfants, des enfants. Mais comme jeune de 29 ans, je me permets quand même de dire... C'est juste une... Tu sais, c'est juste mon opinion impopulaire, là. Mm-hmm. Pas sûr, je voudrais me rendre à 80.
Moi, je pense que l'aide médicale à mourir, maintenant que c'est une réalité, je pense qu'il y a bien des gens qui se disent, ben, si à un moment donné, ça marche plus, c'est un go, là.
Mais il faut que ta mort soit prévisible. En tout cas, il y a une affaire comme ça.
Ça ne sera plus ça. C'est ça un des amendements principaux du projet de loi.
Je trouve que c'est une bonne chose parce que...
Le manque d'autonomie à la fin de ta vie, c'est pas agréable non plus.
Il me semble qu'il y a tellement de gens qui ont plus d'autonomie pendant plusieurs années puis qui finissent par décéder.
Qualité de
tout
vie.
Ils ont leur tête, là, ils savent que ça va pas bien, non? C'est ça.
Me semble, moi, je voudrais juste pas me rendre là.
Alors, ça, c'est
un
changement.
C'est cas par cas, par contre. C'est ça qui est c'est difficile sûr, à. C'est sûr. Ben,
honnêtement, c'est
dans,
juste
dans
du cas par cas.
Ouais. Au niveau de la santé mentale, là, je comprends que le degré là, de possession de ses moyens pour prendre une décision lucide, c'est très compliqué et c'est du cas par cas là, vraiment à côté.
La décision que je vous ai présentée, là, la situation que je vous ai présentée il y a un instant, t'sais, il y a plusieurs gens qui vont dire ben c'est tout simplement une demande de suicide assisté qui est faite. Puis ce serait pas totalement faux, mais là, on le cacherait sous une autre appellation. Est-ce que c'est légitime ou pas? Honnêtement, probablement que chacun a sa réalité, comme on dit, puis la douleur intérieure. Tu sais, il disait vraiment, je m'automutilais parce que c'était moins souffrant que ce que je vivais à l'intérieur. Honnêtement, là, on problème, est qui pour c'est... dire ça se passait bien chez
ah,
lui
non,
ou en dedans?
Tu sais,
on le sait pas.
Mais moi, tu sais, ce cas-là, je le connais pas, cette personne-là, je la connais pas. Mais je pense, je le vois comme un cas générique. Si la personne, elle allait pas bien, et là, ça va mieux, c'est que c'est pas une fin en soi. T'sais, tandis que quand t'es rendu à un certain âge, t'es en perte d'autonomie,
ou ça,
ça s'améliorera mieux. Pas. Là.
En même temps,
la fin de ta vie est pas prévisible à court terme, mais ça, tu vas jamais pouvoir recommencer à faire du jogging. Là, ça
non,
rapport,
mais en même temps, plus t'avances, tes petits bonheurs sont différents de quand t'avais 25 ans. Ouais. Là, tu peux encore apprécier des moments de la vie. Pis,
non, mais de toute façon, c'est toi qui décides. Toujours. Là,
ça revient à un suicide.
Un genre de suicide assisté. Que... Mais en même temps, ce jeune homme-là dont je vous parle, honnêtement, moi non plus, je ne connais pas. T'sais, sa grande histoire, je ne la connais pas. Mais mettons que ça y a pris, je ne sais pas moi, 8 ans pour se sortir d'une dépression, d'une anxiété profonde. Là. Ben, peut-être qu'il n'a pas le goût de revivre 8 ans pour se sortir de ça parce que lui, il le voit comme ça. T'sais, je ne le défends pas. Je fais juste dire que ce n'est pas évident.
Il faut essayer de comprendre, c'est sûr.
Dans les questions, d'ailleurs, il y a quelques questions litigieuses à ce sujet-là. Là. Tu sais, les mineurs matures. Tu sais, pense à un kid de 16 ans là, qui est en fin de vie prévisible parce qu'il y a un cancer ou je ne sais pas. Lui, il est très mature et il est capable de dire qu'il n'est plus capable. Mais il a 16 ans, il ne pourra pas le faire. Bon, c'est une des questions qui sera...
Encore là,
la madame de Montigny là, qui est atteinte de l'Alzheimer, c'est un bon exemple quand même. Là. Elle sait vers où elle s'en va. Là.
Ouais.
Puis ça ne tente pas de vivre...
Les demandes anticipées, la maladie mentale, comme je parlais, l'état des soins palliatifs aussi au Canada, t'en parlais il y a un instant, c'est peut-être pas le fun tant que ça de finir sa vie de cette façon-là, puis même si, bon, il faut prendre une décision à un moment donné, puis bon...
C'est complexe.
Oui, c'est très, très complexe.
Mais déjà que ce soit arrivé dans nos vies, v'là 20 ans, si on avait parlé de ça...
Impensable.
On aurait dit, de quoi tu parles, Bill?
Puis, juste dire, c'est zéro en lien avec les... la façon dont on prend soin de nos personnes âgées, l'opinion que j'ai sur l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire que...
Ça, c'est juste la perte d'autonomie en soi.
C'est ça. C'est quand t'as que tu sois dans une résidence ou à la maison, peu importe, mais quand tu es assez en perte d'autonomie, que tu détermines que tu n'as plus de joie de vivre, tu n'as plus de dignité, puis que tu veux t'en aller. La fin n'est pas prévisible dans un horizon quelconque. Tu sais pas, il te reste 6 mois, il te reste 1 an, il te reste 5 ans. C'est juste que tu veux t'en aller à cause de ta condition. Mais évidemment que moi, j'ai grandi avec avec ma grand-mère au premier étage à la maison. T'sais. Elle avait son appartement en haut, puis nous autres, on restait au rez-de-chaussée, puis dans le sous-sol. Ça fait que, puis ma grand-mère est restée chez eux jusqu'à 90-91, là. Dans ma tête, ça n'a aucun sens. Au Québec, on est parmi les nations qui parquent le plus nos petits vieux dans des résidences.
Oui.
Okay? Au prorata de la population, plus qu'au Canada, plus qu'en Amérique du Nord, plus que en Europe, on clenche là, presque tout le monde. Okay? Ça n'a aucun sens. Puis pour moi, il faudrait qu'on fasse tout. C'est pas des maisons des aînés. La solution, c'est que les aînés puissent rester chez eux le plus longtemps possible.
Des maisons bijurisdictionnelles.
Non, mais ça, mais des soins à domicile aussi, tu sais, le fait que tu puisses avoir quelqu'un qui vient te voir à la maison, tout ça coûte cher. Je veux pas, tu sais, rentrer dans tous les détails, la patente. Mais moi, d'abord, je pense ça. Mais le débat qui est complètement différent, à savoir, on peut-tu dire à une personne qui a 90, quand elle décide qu'elle veut s'en aller, là, elle peut-tu, maudit?
Que dans ce cas-ci, c'est qu'il vient un bout de temps où t'es plus apte à décider.
C'est ça. Ça, c'est le gros enjeu.
Un bout. C'est ça qui est dur à déterminer.
Ah oui, c'est sûr, t'as raison.
On ne connaît pas le futur.
Mais il y a d'autres bouts où...
Si on connaissait le futur, on serait riche. Ouais. Les chiffres du Lotomax, on les aurait.
L'almanach des sports.
J'ai déjà les chiffres du prochain Lotomax, mais je ne vous le dis pas c'est quoi, je veux que ce soit moi qui gagne.
Mais c'est complexe en tout cas. Comme
non, je sais bien.
Très. Parlant de complexe, je vous emmène un autre dossier très complexe. On va aller en Beauce. Procès de Jean-François Roy. D'abord, rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de ce dossier-là. Pourquoi? Parce qu'un avocat a démissionné en pleine salle de cour pendant l'audience, mais pas démissionné du dossier, non. Le juge ne voulait pas le laisser partir du dossier, alors lui, il a démissionné du barreau.
Hein?
Ouais. Et ben en fait, c'est pas arrivé la semaine dernière. On l'a su la semaine dernière, mais c'est arrivé en septembre. Mais il y avait un interdit de publication. Bon, je vous évite les détails. On va aller dans le procès à proprement parler de Jean-François Roy. Lui, il est accusé et il a admis même avoir tué Higgin Veilleux. C'est un chauffeur de taxi dans la Beauce. Ça s'est passé en 2014. Mais la question, c'est, avait-il l'intention de le faire? Lui, il est accusé au premier degré actuellement, meurtre au premier. Mais lui, il voudrait être reconnu coupable, soit de meurtre au deuxième, ou peut-être même d'homicide involontaire. Sa défense, même psychiatre, qui est venu dire qu'en raison de sa consommation de cannabis, le tueur était en psychose toxique lorsqu'il est passé à l'acte en novembre 2014. Alors, il ne présente pas une défense de non-responsabilité en raison de troubles mentaux. Il parle plutôt d'accusations de meurtre au premier degré qui ne sont pas adaptées à la situation. Le code criminel, vous le savez, prévoit des sentences différentes pour ces meurtres-là. Premier degré, c'est prémédité, délibéré, alors que deuxième degré, c'est, il y a une partie d'accident là-dedans, ou en tout cas, moins de prévisibilité, et homicide involontaire, là, on parle de l'accident. Mais avec négligence, enfin, je ne ferai pas un cours de droit là ce matin, mais vous comprenez les nuances. Selon un autre psychiatre, Jean-François Roy, n'était pas en proie à une psychose lorsqu'il a tué M. Veilleux. Le diagnostic, selon ce psychologue-là, dit que ce n'est pas cohérent. Les préparatifs et les précautions prises par le tueur parlent d'elles-mêmes. En d'autres mots, on a droit à encore, devant les tribunaux, une bataille d'experts pour savoir s'il y a une question de troubles mentaux ou pas. C'est pas une question qu'il l'a fait ou pas, mais c'est une question de déterminer quelle est l'accusation en lien avec tout ça. C'est un dossier qu'on va suivre avec attention beaucoup dans le secteur de la Beauce dans les prochaines semaines, certainement. C'est loin d'être fini. Je vais vous parler en terminant d'informations qui ont été dévoilées par CBC et par certains médias américains. Pierre Elliott Trudeau aurait demandé à Paul Desmarais. Là, vous vous dites, non, c'est pas récent. Non, c'est pas récent. C'est en 1976.
Oui.
Et il aurait demandé à M. Desmarais de rendre la vie impossible au PQ. Tiens-toi. Un mois après l'élection du Parti québécois. Et ce qui nous fait dire ça, c'est un télégramme déclassifié aux États-Unis qui avait été envoyé en 1976 par l'ambassadeur américain Thomas Anders. Et dans ce télégramme-là, qui est daté du 22 décembre 1976, il a informé que Washington, donc que le premier ministre Trudeau, Pierre Elliott, envisagerait d'adopter une approche plus agressive avec le gouvernement Lévesque. Je peux peut-être en lire un léger extrait. Écoute bien ça.
Allons-y.
Le président de Power Corporation, Paul Desmarais, qui est le principal allié de M. Trudeau dans le milieu des affaires et le plus important homme d'affaires au Canada français, me dit que M. Trudeau suggère de rendre les choses aussi difficiles que possible pour le Québec. M. Desmarais, dont les entreprises emploient 48 000 personnes au Québec, pense que M. Trudeau veut qu'il laisse intactes les structures de son entreprise dans la province, tout en transférant dans le reste du Canada autant d'opérations et d'investissements que possible, avec l'idée de faire passer le taux de chômage provincial de 10 à 15 ou même 20 % l'année suivante. Alors, on apprend ça dans un télégramme qui a été déclassifié au cours des dernières journées aux États-Unis. Amène un éclairage différent un peu sur l'histoire. Maintenant, bon, c'est des tactiques des années 70, diront certains. Peut-être, mais...
On a appris de ces tactiques-là.
Disons que dans l'histoire, ça peut avoir un certain impact. Je ne sais pas si c'est... est-ce que c'est une immense controverse ou c'est juste intéressant pour l'histoire? Je ne sais pas à quel bout il faut qu'on se place.
Je dirais l'histoire, moi, sérieux, parce que... C'était en 76 quand même.
Le Parti québécois hier et le Bloc québécois n'étaient pas tout à fait d'accord avec ton analyse.
Eux qui sont reconnus pour vraiment ne s'attaquer qu'aux dossiers chauds et prioritaires pour les Québécois, Québécoises et Canadiens, Canadiennes.
Le modèle à suivre.
En tout cas, pour l'histoire, c'est très intéressant.
Oui, oui, oui. Ah non, mais je ne dis pas l'inverse. Mais moi, j'ai vu la notification, effectivement. Le chef du PQ furieux après Pierre-Éliott Trudeau. Soyons, calvaire, il me niaise.
Ils sont trompés encore des notifications.
Non, M. Saint-Pierre, Luc Plamondon, là. Êtes-vous certain là, que c'est ça votre cheval de bataille cette semaine? Là? C'est correct, remarque, ils font bien ce qu'ils veulent. Là. Mais en tout cas, moi, comme citoyen, je peux pas te dire qu'hier, j'ai fait enfin un parti qui représente mes intérêts.
Jean-François Lydie dit que c'est majeur. Lui, bien évidemment... Disons qu'il y a...
Entre eux autres, ils sont capables de...
Plus on en ajoute une couche, plus je me conforte dans ma position que ce n'est que bon pour l'histoire.
Il dit que le télégramme de M. Anders a comme effet, a l'effet d'une bombe, tout simplement. Il dit, c'est majeur, nous n'avons jamais rien su de tout ça. On ne sait pas jusqu'où c'est allé et à quel point ça a été efficace, mais cette tentation de saboter une partie de l'économie québécoise semble avoir fait partie de la stratégie dès le début. Non seulement c'est la première preuve, mais aussi le premier témoignage direct d'un acteur majeur, M. Desmarais, à une source irréprochable voulant que le jeu ait été teinté.
Hey, as-tu vu dehors, si je me sens une fois, il y a une manif qui s'organise pour la démission de Pierre-Éliott Trudeau.
Tu vois, c'est déjà
l'aéroport. Faut changer ça, ce nom.
Faut changer ça, ce nom-là. Bon. Mais c'est fort intéressant. Bon, je fais des blagues parce qu'effectivement, ça relève plus de l'histoire que... Mais c'est bien, bien intéressant. 7h46, on va prendre une pause, on vient.